Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Lecture par tous sur Divergence FM. Alors aujourd'hui, du monde dans le studio, nous recevons l'écrivain Hélène Honora, hein, qui publie « N'oublie pas Irma ». Moi, je n'ai pas eu le temps de le lire, j'avoue humblement. Mais nous sommes une association, les collecteurs, il y a plein de lecteurs. Et donc c'est Laurence Holwood et Françoise Jarousse qui vont soumettre Hélène Honora à la question. Donc, par qui je commence, mesdames, qui ouvre le feu? Allez, Laurence, on va, dans un premier temps, parler de N'oublie pas Irma, publié aux éditions Yovana.
Voilà, bonjour à tous. Alors, N'oublie pas Irma, paru la semaine dernière, si je ne me trompe pas, aux éditions Yovana, qui est une petite maison d'édition de la région, du Gard.
De Bagnols-sur-Cèze, précisément.
Bienvenue Hélène Honora et puis merci pour la lecture que vous nous avez proposée. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre roman? Parce qu'en fait, il faut quand même dire que c'est un roman noir, donc un peu un thriller. Donc c'est difficile pour un lecteur de ne pas, d'en parler sans dévoiler ce que l'auteur ne voudrait pas voir dévoilé.
Alors, je préviens les auditeurs, vous ne saurez rien de l'intrigue, nous ne parlerons pas de l'intrigue. Nous parlerons de plein d'autres choses qui concernent ce roman.
Voilà, donc Hélène, dites-nous ce qu'on peut savoir avant d'entamer la lecture de ce roman.
C'est un roman qui nous emmène à Jakarta, à Java, la grande île de l'immense archipel indonésien. L'Indonésie, c'est un monstre et une merveille. Et Jakarta, c'est la deuxième métropole au monde après Tokyo. C'est donc un monstre en termes de développement. Le grand Jakarta, comme on dit le grand Paris, c'est 30 millions d'habitants, presque la moitié de la population française. Et quand on pense à l'Indonésie, en Europe en général, on pense à Bali, en termes de tourisme, parfois malheureusement d'attentats, comme en 2002, mais l'Indonésie ne se résume pas à Bali. Il y a même, à part Java, des îles dont j'adorais les noms quand j'habitais là-bas, comme Alor, Babar, Damar ou Roti. Mais revenons à Jakarta. Donc Jakarta, une énorme ville. L'Indonésie, le quatrième pays au monde en termes de population, et le pays qui compte la plus forte population de musulmans au monde également.
Ok. Donc, vous parlez de la diversité de la population. Effectivement, c'est presque un des ressorts, un des nœuds de ce roman. Alors, juste, jamais t'es dit, on va commencer cette interview.
Alors, on va peut-être faire entendre les premières lignes du roman.
Pour vous montrer que...
Appâter les futurs lecteurs.
Voilà. Alors, donc, N'oublie pas Irma. L'air s'est enflammé, s'est emparé d'un rang de motos et a tout avalé en un seul coup de langue. Quant au vélo blanc et or, tordu en 3 secondes, je me suis retournée, le feu avait pris dans mon dos. La voiture n'a guère résisté plus longtemps. Dans une cacophonie de sifflements, de ronflements, d'éclatements, elle aussi a capitulé. Les fumées enflées à toute vitesse, emplissant la rue. J'ai distingué un instant le visage du chauffeur, sa casquette, sa livrée au bouton brillant, ses grands yeux ouverts, ses mains qui n'avaient pas quitté le volant. « Ada Kebakaran, il y a le feu !» Voilà, on va s'arrêter là.
Alors, où il y a le feu? Qu'est-ce qui brûle et pourquoi c'est dramatique? Eh bien, lisez « N'oublie pas Irma » et vous en saurez plus. Alors, on commençait à parler un peu de l'Indonésie. Oui, Jakarta. Alors, vous avez choisi un événement un peu... Vous êtes remonté un petit peu dans le temps. Ça se passe, on est en 1995, c'est ça, au moment du... cinquantenaire de l'indépendance indonésienne. Vous voyez, j'ai quand même lu la quatrième de couverture, au moins.
Bravo.
Hein, et à l'époque, Jakarta, c'est 9 millions d'habitants, quand même, déjà. Alors, pourquoi remonter à cette date-là?
Le roman balaie en fait l'histoire de 1945 à 2017, mais il y a effectivement, Marc, trois dates clés. 1945, la proclamation de l'indépendance par rapport aux Néerlandais. L'Indonésie était sous le joug colonial des Néerlandais depuis un peu plus de trois siècles. Et le futur président Sukarno a proclamé l'indépendance. La deuxième date, c'est 1965, un coup d'État manqué contre Sukarno. Un bain de sang au moment des représailles, 500 000 personnes, 500 000 morts, un demi-million, c'est la fourchette basse, c'est-à-dire plus que Hiroshima et Nagasaki réunis. Et la troisième date, c'est 1995, donc l'anniversaire, le jubilé de la proclamation de l'indépendance. Et c'était une date particulière parce que la ville entière était saisie d'une excitation extraordinaire. Et c'est à ce moment-là que se situe le début de mon roman.
Voilà, oui, les descriptions de la ville qui est en train de se parer de toutes ses couleurs, ses blancs et rouges, si je me souviens pas bien. Voilà, donc on imagine effectivement le foisonnement. Et puis cette intrigue, cet incident, cet incendie plus exactement, qui occupe notre héros, mais qui semble ne pas occuper du tout. On sent bien que c'est une immense métropole et que c'est ce qui occupe le protagoniste principal, le héros, ne préoccupe pas du tout le reste de la ville.
Ah, oui, alors vous parlez du protagoniste principal. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce personnage, comment il s'est construit,
alors, les
pourquoi
personnages,
vous l'avez choisi comme ça?
Pourquoi je les ai choisis? Justement parce qu'on parlait en termes de population. Il y a à Jakarta et en Indonésie une communauté, une minorité, la minorité chinoise, qui remonte au tout premier siècle de notre ère. Les Chinois de Chine du Sud ont commencé à migrer en Asie du Sud-Est, en Malaisie, en Indonésie, à Singapour. Et cette communauté est régulièrement persécutée. Elle se divise en deux groupes. Alors, il y a un groupe qu'on appelle Baba Nyonya. Les Baba Nyonya ou Peranakan, ce sont les Chinois des Détroits. Ce sont les Chinois qui sont arrivés il y a déjà plusieurs siècles et qui se sont intégrés aux populations locales. Alors la culture Peranakan, ça a donné des choses tout à fait spécifiques. Par exemple, en termes de vêtements, quand les Chinois d'Indonésie faisaient venir de Chine une robe de mariée ou de cérémonie, on faisait venir en même temps d'Europe des perles et on brodait ce vêtement avec les perles qui étaient venues d'Europe et qui étaient à la rencontre donc des vêtements venus de Chine. Et ça donnait un résultat tout à fait particulier et magnifique. Ils avaient des meubles somptueux, incrustés de nacre, de laiton, de pierres semi-précieuses. Ils avaient des bijoux qui s'inspiraient à la fois des bijoux chinois et des motifs javanais. Et alors, à propos des Peranakan, il y a eu en 2011 au musée du Quai Branly une exposition qui s'appelait Baba Bling et qui était placée sous le haut patronage de Nicolas Sarkozy, qui était alors le président. Donc, je ne sais pas si c'était un clin d'œil. Baba Bling, c'était le titre de l'exposition.
Alors, Baba Bling, ça me fait penser. Vous voyez, vous entendez ce bruit, voilà. Alors, ça, c'est pas bling bling. C'est de l'argent fictif, vous nous expliquiez avant l'émission, pour corrompre l'administration céleste. Alors, votre roman s'appuie sur les rituels aussi, sur le tissu religieux, les pratiques religieuses. Alors, quelques mots sur ce bling-bling à l'adresse des dieux.
Oui, alors, ceci, l'argent fantôme, cela émane plutôt de la deuxième communauté. Le deuxième groupe, ce sont les Totoks. Les Totoks sont les Chinois d'immigration ou d'importation plus récente, plus attachés à la mère patrie, qui avait conservé des liens avec la Chine et qui rêvait par exemple de bouter les Mandchous hors de la Chine. et qui était plutôt... Les Peranakans s'étaient enrichis dans l'opium, la canne à sucre, etc. Les Totoks étaient plutôt des artisans, des orfèvres, des menuisiers. Et donc Irma descend de la communauté Peranakan et Meng, qui va disparaître tragiquement...
Donc là, il s'agit des personnages. Hein, on est en train de parler des personnages.
Oui, tout à fait. Merci, Laurence. Et Meng est un Totok. Donc Meng est son beau-frère. Il a épousé Lin, qui est aussi donc Peranakan. Et Meng fabrique des offrandes funéraires et vend des offrandes funéraires, dont le fameux argent fantôme. Alors l'argent fantôme, c'est une offrande, c'est fait pour effectivement acheter la bureaucratie céleste et assurer le salut de la personne défunte.
Dans les autres personnages, parce que ça c'est une partie des personnages, il y en a en particulier trois autres, les trois Européens, on va dire. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, il y a Léo, qui est un jeune expatrié. Alors Léo est un demi-caste, c'est-à-dire qu'il n'a pas de passeport diplomatique, mais il est détaché au centre culturel. Et Léo est amoureux de Jakarta et d'Irma, trentenaire, et il vit seul, ce qui, dans un pays comme l'Indonésie, est déjà pratiquement louche, parce que dans un pays de 266 millions d'habitants, on ne vit jamais seul. Même si vous avez 80 ans, on va vous demander si vous êtes marié, Sudha Kawin, et vous ne répondrez jamais non. Vous direz Belum, pas encore, quel que soit votre âge.
Enfin, il vit seul, mais pas tout à fait non plus, donc dans sa grande demeure.
Oui, il vit dans une grande maison, comme souvent là-bas, et il se voit imposer deux invités, un jeune couple. Il y a Quentin qui travaille à l'ambassade et Estelle, et en attendant qu'eux-mêmes trouvent une maison, Léo les invite un peu contraint et forcé par l'ambassade chez lui.
Donc là, on a le panorama.
Alors, tout ce que vous venez de nous dire nous montre que vous connaissez fort bien tout ce monde indonésien, dans la mesure où vous y avez vécu vous-même. Et moi, je me suis intéressée à votre parcours. Hein. Ce livre n'est pas votre premier livre. Vous avez publié d'autres livres. Alors, d'abord, sous des pseudonymes.
Oui.
Et je me suis demandé pour quelles raisons. Vous aviez utilisé des pseudonymes pour commencer à publier.
J'en ai usé plusieurs, au moins trois, parce que j'ai commencé à être publiée à 16 ans. Donc là, j'avais pris un pseudonyme, je m'appelais Mika, tout simplement, parce que j'étais encore mineure. Bon, ensuite, j'ai publié... J'étais fonctionnaire, donc j'avais une autre vie, une vie parallèle. Donc, je publiais sous pseudonyme chez Buchet-Chastel, mais sous pseudonyme. Et donc, l'un de mes romans a été adapté à la télévision. Et à l'époque, je préférais que ce soit avoir une autre personnalité. Et puis, finalement, j'ai publié sous mon nom. Et actuellement, c'est ce que je fais.
Oui. Et je me suis demandé si votre roman, donc Les Dessous du Ciel, avait un rapport avec un autre de vos talents, qui était le parachutisme sportif.
Oui, j'ai passé à l'époque un brevet de parachutisme professionnel, une licence de parachutisme professionnel. J'aime bien dire, parce que ça me fait rire, que j'ai une licence de parachutisme professionnel et une licence de lettres. Bon, ce n'est pas le même domaine, mais effectivement, simplement, je l'ai écrit. La réalité informe la fiction et non le contraire. C'est-à-dire que j'ai écrit des choses dans mon roman qui se sont produites par la suite. Ça arrive.
D'accord. Et je me suis demandé, vous auriez pu être enseignante, hein, puisque vous avez passé le CAPES.
Oui.
Et bon, vous êtes écrivain ou écrivaine. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ?
Je crois qu'on écrit tous, on écrit la liste des courses, on écrit des cartes de vœux, virtuelles ou réelles, on écrit des mots d'amour, on écrit le mot d'excuse pour le petit qui est malade et qui ne va pas à l'école. Bon, moi j'ai écrit...
C'est pas forcément de la grande littérature qu'on écrit à ce moment-là.
Non, mais j'ai écrit tout ça, y compris des curriculums ou des curricula vitae pour les amis de mes filles. Bon, et puis, donc très jeune, j'ai écrit des nouvelles. Ce qui m'a poussée, je pense, c'est le déracinement. C'est-à-dire qu'on déménageait beaucoup, mes parents, ma sœur et moi. Et il me fallait quelque chose, il me fallait des racines. Entre la maternelle et la classe de quatrième, j'ai changé 11 fois d'école. Donc, écrire, c'était une revanche là-dessus. Et donc, j'ai écrit des nouvelles, puis des romans, et puis des travaux de commande, des fiches encyclopédiques, des choses comme ça.
D'accord. Et donc, le thriller, c'est le premier essai avec N'oublie pas Irma, ou est-ce que quels étaient les genres des autres romans ?
Ah, c'est mon premier thriller, oui. J'ai écrit trois romans, un récit, et N'oublie pas Irma est un thriller, c'est le premier. Et je lisais très peu de polar, donc aux innocents les mains pleines. Mais quand j'ai lu que Nicolas Bouvier regrettait de ne pas avoir écrit de polar, Bouvier qui est un écrivain que j'adore et que je vénère, et qui lisait lui-même des polars, je me suis dit bon, pourquoi pas. Et puis il y a un écrivain, celui qui a écrit Les 39 marches, John Buchan, un écrivain anglais, qui faisait dire à son narrateur, il cherche où aller, dans quel pays, ou un peu au hasard. Et puis le narrateur dit, j'ai pensé que l'Albanie était un pays rêvé pour empêcher un homme de bâiller. Alors, j'espère que l'Indonésie est un pays rêvé, et n'oublie pas Irma aussi, pour empêcher quelqu'un de bâiller.
Ah bah, on le souhaite aux lecteurs, en tout cas. Voilà, vous nous avez dit un petit peu le roman noir. Par rapport aux autres textes que vous avez pu écrire, récits, romans, qu'est-ce qui a été un petit peu difficile, à quoi vous avez essayé d'être particulièrement attentif dans cette écriture-là ? Parce que vous vous aventuriez dans un genre quand même un peu balisé, que vous connaissiez, vous n'avez pas beaucoup lu, donc vous n'étiez pas forcément très familière. Alors, quel problème spécifique ça a posé à l'écrivaine ?
La construction de l'intrigue, il fallait que je réussisse à charpenter quelque chose qui tienne debout. Jusqu'à présent, les tests sont positifs, personne n'a trouvé. Et puis je pensais que c'était intéressant. L'Indonésie est un pays violent. Comme je le disais au début, c'est un monstre et c'est une merveille. Je pensais qu'il était important d'en parler et d'en parler sur ce mode-là.
Alors, des projets, alors, l'écriture, c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Est-ce qu'il y a des projets, des choses en chantier actuellement ? Parce que bon, déjà, ça, c'est le cinquième roman, c'est cela ? Cinquième roman, puis
oui.
Un récit un peu plus court. Et puis quelque chose qui est adapté à la télévision quand même.
Oui, l'un de mes romans sous pseudonyme a été adapté en feuilleton. À l'époque, on ne disait pas série.
Voilà. Alors, des projets, des choses en chantier ?
Un projet, mais tout dépend de mon éditeur, de Yovana. On en a parlé, on en reparlera. Et quelque chose, oui, qui me tient à cœur. Tout comme me tenait à cœur N'oublie pas Irma.
Alors, un travail avec l'éditeur, ça, les auditeurs n'imaginent pas forcément qu'il y a un travail comme ça en amont de la publication entre auteur et éditeur. Bon, là, on a un éditeur qui est particulièrement attentif, hein, Julien Pujol de l'édition Yovana. Alors, comment ça se passe entre vous, auteur, et cet éditeur ?
Eh bien, je crois que c'est un préalable que pose Julien, parce qu'avant même de signer le contrat avec lui, Julien, je l'avais entendu faire une présentation d'un roman justement traduit par Laurence. Et Julien disait, moi, un auteur qui refuse ensuite les révisions, ça ne m'intéresse pas, je ne signe pas de contrat avec un auteur comme ça. Donc je lui ai dit, moi, je suis prête à réviser ce qu'il faudra. Et on s'est vu plusieurs fois, plusieurs séances de révision, de correction, avec des choses qu'il propose, qu'il me proposait avec Marie-Laure, son associée dans ses travaux d'Hercule, et certaines que j'acceptais, d'autres pas, et on négocie longuement.
Voilà, donc un éditeur, c'est un peu comme un producteur au cinéma, il peut être très présent, et c'est... Il y a une ligne, on va retrouver le style aussi d'un éditeur dans les livres qu'il publie. Et Giovanna est bien dans cette logique-là. Alors, voilà, maintenant, auditeur, lisez N'oublie pas Irma, des éditions Giovanna, tout fraîchement en librairie. Et puis, il y aurait plein d'autres choses. Il y aurait eu plein de choses à dire autour de N'oublie pas Irma. Et le mieux, c'est de venir... mardi 11 décembre à la librairie La Géosphère, donc qui est derrière le musée Fabre, et vous pourrez rencontrer à 19h30, vous pourrez rencontrer Hélène Honora. Attention, la librairie est toute petite, alors ce serait pas mal de réserver, d'annoncer votre venue, pas réserver une place, mais annoncer votre venue, un téléphone pour ça, le 04 99 06 86 29, 04 99 06 86 29. Et maintenant, nous allons passer à votre agenda. Mais avant l'agenda, quand même, merci Hélène Honora d'avoir accepté notre invitation. Merci Françoise et Laurence pour vos lectures attentives.
Merci à vous tous.
Alors, des actualités, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Vous savez, on est dans une époque où les libraires... il y a le Père Noël, c'est leur invité principal. Donc, le Père Noël n'a pas écrit beaucoup de romans. Donc, voilà. Par contre, allez dans les librairies, fouinez, et puis vous pourrez vous offrir... un tas de choses. Alors, quand même, quelques petits rappels. Si vous nous écoutez jeudi, il est encore temps, dès que l'émission se termine, vous filez à la librairie Fier de l'être, où vous pourrez rencontrer Frédéric Paulin, qui a écrit « La guerre est une ruse », qui est publié aux éditions Agulot. On vous en avait parlé précédemment, je rappelle cela. Si c'est vendredi ou samedi que vous nous écoutez, c'est trop tard, tant pis. Voilà. Aussi le jeudi, pareil, si vous êtes jeudi, il est encore temps. Là, ça va vraiment faire très juste, 18h30, filez à l'auditorium de la Panacée, où vous pourrez découvrir deux poètes, David Christoffel et Frank Smith. Donc j'ai pas le temps de vous dire plus, puisqu'il faut que vous filiez tout de suite pour y aller. Voilà. Et puis, quand même, d'autres petites choses. Il se passe quand même des choses au mois de décembre. Le 6 décembre, à la librairie Fier de l'être, qui est des libraires que vous avez entendus présenter leur librairie sur cette même antenne, dans cette même émission... Le cercle de lecture féministe. Vous rappelez, on vous avait parlé de ce cercle de lecture féministe. Eh bien voilà, c'est leur deuxième session, deuxième échange autour d'un roman qui concerne la question des femmes, autour de La Servante écarlate de Margaret Atwood, un roman qui a fait l'objet d'adaptations, qui a fait beaucoup de bruit quand il est sorti, on en a beaucoup parlé. Donc, vous pouvez y aller, c'est à la librairie Fier de l'être, le jeudi 6 décembre à 17h. C'est organisé par l'association Les Anémones, une association d'étudiants féministes. Et, important, les pâtisseries sont offertes. Voilà pour l'agenda,
Excuse-moi, Parc, tu as oublié le 5 décembre, Nat Yot au Grain des Mots.
Merci de ce rappel, Notiot, donc, qui a, alors, rappelle-moi le titre, c'est la Contre-Allée, titre.
Le Nord du Monde, Nathalie Yot, qui est plus connue sous le pseudo Nat Yot ici à Montpellier, elle est poète, et là c'est son premier roman qui est paru à la Contre-Allée, et c'est une lecture à ne pas manquer, donc une rencontre à ne pas manquer le 5 décembre.
Un roman dont on dit, les gens qui l'ont lu, on en dit le plus grand bien, donc 5 décembre... C'est au Grain des Mots.
Et elle fera une lecture, et vu que c'est une...
Voilà, et c'est au Grain des Mots, ça se passe à 19h, et c'est boulevard du Jeu de Paume. Et puis, dernière information, je me tourne vers le technicien, si j'ai encore le temps, c'est bon. ça se passe les 8 et 9 décembre, à Villeneuve-les-Maguelones. Ça s'appelle les Palabrasives. Alors, on peut dire, mais ça pas... C'est pas très littéraire. On vous en parlera. Vous en entendrez parler sur cette antenne dans une autre émission des Palabrasives, qui est un événement plutôt social, politique, mais aussi artistique. Ce sont des artistes qui encouragent une réflexion sur des thématiques politiques, économiques, ainsi de suite. Très ouvert, un grand moment de partage, très convivial, très festif. Et cette année, la thématique, c'est les migrants. Et pourquoi je vous en parle ? Bah parce que la littérature ne sera pas absente de cette manifestation. Le samedi après-midi, il y aura une lecture par les Amis du Grain des Mots, par un groupe de lecteurs d'une association qui s'appelle les Amis du Grain des Mots, de la librairie, et qui vous présentera, vous proposera des lectures musicales autour de la question de l'immigration. Ils ont choisi un certain nombre de textes d'auteurs de différentes époques, de différents pays, et ils vous les donneront à entendre, accompagnés par un musicien, Tony Savana. Voilà, donc c'est une autre façon d'aborder la littérature, une autre façon d'aborder les migrants. Et puis, il faut que je retrouve dans mes papiers, il y aura une autre lecture le lendemain. C'est aussi des lectures musicales et migrantes, de nouveau, au cœur de l'errance. Alors là, c'est un travail un petit peu différent, parce que c'est des écritures qui ont été suscitées par les gens qui se produisent, qui ont sollicité un certain nombre d'écrivains pour écrire sur la question des migrants. Et ce sera pareil, ce sera une lecture avec accompagnement musical. Alors, le samedi, c'est de...
C'est à 15h.
C'est à 15h. Merci Françoise. Françoise est tout à fait au courant. Allez, je vous le révèle. Françoise et moi-même, nous faisons partie des lecteurs en question. Voilà, donc ça s'appelle « Les pas perdus, je suis parti pour vivre ». C'est de 15 à 16 heures. Et puis le dimanche, c'est de 16h30 à 17h30, lecture musicale migrante qui s'appelle « Au cœur de l'errance ». Voilà, pour votre agenda, nous nous croiserons peut-être à Villeneuve-les-Maguelones, en attendant, ou dans une librairie, puisque c'est le moment où on fréquente librairie pour faire des beaux cadeaux. Quoi de mieux comme cadeau qu'un livre ?
Ça prend pas de place.
Autour de cette table, personne ne dira qu'il y a mieux qu'un livre comme cadeau, ou même comme cadeau pour soi-même, pour se faire plaisir. Hop, ce n'est pas fini. Une information de dernière minute nous parvient pour compléter votre agenda. Samedi 1er décembre, la petite librairie à Sommières, la petite librairie qui vient d'ouvrir et qui est attentive aux petits lecteurs. Donc, la petite librairie de Sommières vous invite à rencontrer Rafik Bouguerwa, un enseignant de lettres qui écrit pour la jeunesse. Il est édité chez Matera et présentera quelques-uns de ses livres, Gilgamesh, La légende de Zal, Cyrano de Bergerac et Thésée. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, cet auteur réécrit l'histoire des personnages de la mythologie ou de la littérature française et les adapte pour les enfants. Alors, il viendra partager quelques lectures, dédicacer ses albums à tous les lecteurs de 8 ans et plus. Ça se passe donc à la petite librairie, samedi 1er décembre à 16h. Et si vous ne savez pas où c'est à Sommières, bien entendu. Et c'est 7 rue du Général Bruyère. Merci à nos invités. Merci à Bruno, à la technique, et à très bientôt, et bonne lecture à tous. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.